Bienvenue au Polysécur, ça sur l'actualité. Au 7 décembre 2025, déjà le mois de décembre, ça avance terriblement vite. L'année est quasiment déjà terminée. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de nouvelles cette semaine, ça va aller assez vite. J'ai essayé de contraindre le plus possible, mais bon, bref, il y a vraiment beaucoup de choses que je désire partager cette semaine. Shameless Plug, 25-26 février, le Sécur, le 27 février. L'événement Crise et Résilience, Blackout, le 14 au 17 avril, BotConf 2026, 28-29 avril, Cyberéco, Cyberconférence, 9 au 17 mai, NordSec à Montréal, et 3 au 5 juin, le Styx. Et je me répète, n'espérant ne pas le rater cette année, comme j'ai fait en tout cas devant 2026. Bref, commençons avec la section d'hiver, parce que je la trouve particulièrement intéressante cette semaine pour plusieurs raisons. Donc, je pense que ça commence à passer beaucoup plus intéressant. Un projet, le NGX Ingress, a été abandonné par l'écosystème Kubernetes, CNCF, parce que c'est un projet qui était pas maintenu, qui n'est plus maintenu parce que les gens qui s'en occupent bénévolement, ben, ils sont pas rémunérés, plein de problèmes. Donc, on est dans un contexte où la frontière entre le code open source et son usage de façon commerciale sans payer des droits commence à devenir un problème. C'est pas le seul, j'en parle parce que c'est intéressant. Ça devient intéressant parce que dans le code community, c'est majeur. C'est très présent, c'est très partout. Donc, le fait que cette personne ne reçoive aucun argent de toute l'ampleur de son utilisation, de son composant dans l'écosystème est un problème. S'il avait été moindrement rémunéré d'une façon ou d'une autre, on n'aurait pas face à ça. Fait que tout le monde est fâché, mais en même temps, le dude ou la dude n'est pas rémunéré. Donc, en même temps, on utilise gratuitement son chose. Fait que c'est un peu bizarre d'être fâché. Donc, comme un wake-up call à avoir, est-ce qu'il va falloir qu'on mette de l'argent? Puis, tout dans une réflexion de souveraineté numérique, il est peut-être temps que les États arrêtent d'investir massivement dans certains logiciels et qu'ils se dirigent vers l'open source et donc de financer adéquatement l'open source qui est inhérent à tout ce genre de choses-là. Donc, bref, c'est une réflexion à avoir, mais ce composant-là va disparaître. Je pense que la fin de vie est définie au début de 2026 et ceux qui l'utilisent devront migrer vers d'autres choses, que ça leur plaise ou non, parce que c'est ça l'effet de la vie. Except Need a besoin d'avoir une certaine éducation au niveau de l'usage de messagerie sécurisée. Suite à l'incident du Signal Gate, lequel il a fait un mauvais usage de signal et a invité un journaliste sur le forum de discussion où il s'est chargé des informations très sensibles. Il y a aussi une réprimande au sens où il va avoir besoin d'une formation. Mais en même temps, ça met en lumière le fait que c'est répandu à l'intérieur de la défense. Ce problème d'usage d'outils non sécurisés, non homologués, pas sécurisés, mais peut-être homologués dans le contexte, qui protège adéquatement les informations sensibles de l'appareil militaire américain. Donc, c'est un peu bizarre qu'on doit faire ça, mais c'est un peu à l'image de l'administration Trump, où ils se foutent un peu des règles en place et réécrivent comme ils pensent les choses. Et bon, se font rappeler plus tôt que tard le réel et dans lequel les choses ne peuvent pas être contournées, comme l'usage d'outils plus robustes ou plus adaptés pour la communication en sécurité d'un point de vue militaire, d'un point de vue d'information qui est classifié. Donc, c'est un peu une réflexion, mais en même temps, tout ça, c'est quasi cocasse, c'est quasiment insolite. J'aurais peut-être dû le mettre dans la session insolite, bref. Une personne a expliqué comment elle a découvert qu'il y avait un micro dans un nano KVM, un petit bidule pas très cher, pour contrôler à distance, généralement des ordinateurs ou des serveurs. Donc, en le démontant puis en testant la sécurité, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit morceau qui n'est pas très visible. Il faut vraiment être connaissant au niveau de l'électronique pour se rendre compte que le petit morceau était un micro. C'est assez bonne qualité d'ailleurs de ce qu'il mentionne. Donc, de voir cette présence-là. Est-ce que c'est utilisé? Il était capable de faire la démonstration, c'est utilisé, mais étant donné que c'est une compagnie chinoise avec beaucoup de choses qui sont arcodées, qui pointent vers la Chine, qui sont difficiles à retirer, qu'il y a certains éléments louche dans le setup. Il y a des questions à se poser. C'est peut-être une manœuvre inconnue. Bref, tout ça est à voir, mais c'est voir à quel point il faut être très, très prudent avec ce qu'on achète. On l'a vu avec les autobus il n'y a pas si longtemps que ça qui était pour être contrôlé. Bref, tout ça demande une certaine réflexion, une certaine ouverture sur le fait d'analyse beaucoup plus approfondie qu'on a l'habitude de faire, surtout dans les compagnies privées. Sous-section jeunesse, je trouve ça intéressant parce qu'il y a deux nouvelles qui sont vraiment au niveau de adressées aux adolescents essentiellement. La première, c'est que les Dutch, en tout cas, je ne pourrais pas traduire, ont fait une étude pour savoir que la cybercriminalité chez les adolescents est essentiellement ce qu'on a découvert, c'est juste une phase. Essentiellement, la phase où on retrouve plus des gangs, où les jeunes garçons font des graffitis, les bombes, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment scientifiquement, ils ont fait l'étude, ils ont découvert que c'était vraiment ça. Donc, ce qui n'est pas renversant, parce que personnellement, je ne suis pas étonné de cet état de fait-là. Par ailleurs, c'est bien d'avoir un écrit, parce que beaucoup de dirigeants s'appuient sur des écrits, des études scientifiques crédibles. Ça, ça en est une. Donc, on va pouvoir peut-être mettre les règles en conséquence et s'assurer que ces jeunes-là ne se mettent pas trop dans le trouble avec des choses trop grandes. La seconde nouvelle, c'est The Wire de sortir un guide obsèque pour les adolescents qui est très intéressant. Pour la famille également, parce qu'il est quand même assez complet comme guide. Il explique beaucoup de choses. Même si c'est dirigé vers les adolescents, il y a beaucoup de choses que je pourrais donner à mes parents, que je pourrais donner à mes amis qui ne sont pas dans le domaine. Et je pense que ça les brassera un peu sur leur obsèque et comment l'améliorer, comment aller plus loin avec ça. Fait que c'est super intéressant. Si vous avez l'occasion, vous avez des jeunes, vous avez des jeunes dans votre entourage ou de chez vos amis, famille, ça, ben allez chercher ce guide-là. Donnez-le. Il est en anglais malheureusement, mais quand même très intéressant en termes de contenu pour avoir une meilleure hygiène numérique pour les adolescents qui, a priori, n'ont pas une super bonne hygiène numérique. Ils ont un usage un peu trop exagéré du numérique, en l'occurrence. Ils prennent des chances un peu trop grandes. Le dernier sous-groupe pour la section d'hiver, c'est React to Shell. Une nouvelle update sur React qui est sortie cette semaine. Ça a créé beaucoup d'émoi. Ça a créé la panne chez Cloudflare, notamment, suivant la migration de ce composant logiciel pour le web. J'étais à terre une autre fois avec Cloudflare, donc c'est pas très glorieux comme chose. Donc, c'est tout des éléments à tenir en compte puis voir comment regarder ça. C'est une vulnérabilité qui est scorée 10, donc c'est pour ça qu'il y a tant de panique autour de ça, mais est en même temps. Puis ça, c'est là où Kevin Beaumont intervient, si on veut. Et disons, nous fait un petit rappel que c'est peu de gens qui ont vraiment ce composant-là d'installer ceux qui est vulnérable. Et le setup ou l'alignement des choses est plutôt rare dans les équipements de production. Donc, de peut-être pas s'inquiéter, ça ressemble un peu à l'espèce de panique qu'on a eue pour Log4j où tout le monde a déchiré sa chemise, la terre est en feu, c'est la fin du monde, tout allait exploser. Ça n'a pas tant explosé que ça, à part que les gens ont perdu leur congé des fêtes pour peut-être pas tant grand chose que ça, parce que la vulnérabilité était quand même assez facile à corriger de façon massive si on bloquait le egress dans le cas de Log4j. Et dans ce cas-ci, de s'assurer qu'on a le composant qui est vulnérable selon les paramètres qui sont en conséquence. Et un peu de la critique de Kevin Beaumont en ce moment-là, c'est toute l'espèce de panique qui a eu lieu sur LinkedIn et l'amplification, j'imagine, avec le AI, a rendu ça de façon démesurée à quel point ça n'avait aucun sens ce qui se passait. Par rapport à cette chose-là. Donc, dès lors, de prendre un peu de calme, d'analyser et peut-être pas de déchirer sa chemise ou de partir en panique immédiatement à ce moment-là, mais d'être un peu plus modéré, prendre le temps d'analyser au lieu de juste écouter ce qui se passe sur LinkedIn et de paniquer. Section AI, aussi très grosse cette semaine. La première sous-section par rapport au AI, c'est les guardrails ou l'absence de. Trois très bons articles de ce côté-là. Qui mériterait d'être lu par les gens qui ont peu de connaissances dans le domaine ou qui commencent avec la sécurisation du AI. Mais essentiellement, comme le premier qui est en flow, c'est, dans le fond, c'est le contrôle des flows, mais cette réflexion-là est égale aussi pour peu importe l'information qu'on traite. Donc, de toujours s'assurer qu'on fasse un traitement. Et ça demeure que ce n'est pas quelque chose de nouveau fondamentalement, l'usage du AI. C'est juste que le moteur d'inférence, en ce cas-ci, nous apparaît un peu plus extraordinaire, mais si on suit l'information, si on est capable de contrôler l'entrée et sortie, là. Donc on est quand même capable de faire quelque chose. Si ça fait partie des guardrails d'ailleurs, l'entrée et sortie, tu te contrôles. Google Vibe Coding, l'antigravité, a littéralement effacé un lecteur complet d'une personne, puis ça ne semblerait pas la seule qui est arrivée comme ça, de par le fait qu'elle a voulu filtrer des photos, tout ça, puis en exécutant, ben, ça l'a zappé son lecteur complet. Donc, c'est un peu un rappel aussi sur le fait que ces agents-là n'ont aucune limite, vont exécuter de façon un peu bête, même s'ils font erreur, des commandes, notamment dans ce cas-ci, d'effacer des fichiers parce que ça a été mal foutu. Il y a eu celle-là, il y en a eu d'autres aussi dans les derniers jours et dernières semaines. Donc, c'est quand même un rappel que ces agents-là doivent être contraints dans des environnements très, très restreints, justement pour éviter qu'ils puissent faire des dommages trop grands ou qu'on puisse faire ce genre de choses-là. Puis c'est aussi un rappel sur le fait que comme humain, on a tendance à présumer qu'on va faire attention. Donc, dès lors, nos contrôles de sécurité sont beaucoup plus lousses parce qu'on présume que les gens vont faire les bons choix, les bonnes décisions. Autant en entreprise qu'à la maison, on n'a pas tendance à serrer très, très tight la sécurité, justement, parce que, ou le contrôle des accès, des choses comme ça, parce qu'il y a des présomptions. Le AI, il n'y a pas de présomption, donc on ne peut pas présumer qu'il va faire le bon geste ou qu'il a une bonne intuition. Le présent, en tout cas, nous montre que non. Donc, c'est un exercice de renforcer et de durcir ces éléments-là, ce qui est un peu contre nature. Puis en plus que ces agents-là sont à l'intérieur du périmètre interne des entreprises dans lesquelles on a moins de contrôle parce qu'on fait confiance à nos employés. Dans ce cas-ci, on ne peut pas faire confiance au AI. C'est essentiellement d'avoir un enfant de 5 ans puis demander de faire des choses dans notre réseau d'entreprise. Donc, bref, mettez les contrôles nécessaires par rapport à ce genre de choses-là. Les gens qui sont de plus dans le militaire, exception aux États-Unis à l'heure actuelle, sont vraiment dans un autre univers présentement. Ils sont déjà habitués à ce genre de ségrégation-là, donc d'une application très serrée, très étroite. Et dernier élément, c'est un podcast qui, justement, il y a un blog très intéressant qui parle justement de ces guardrails-là et amène beaucoup de bonnes pratiques, notamment ceux que j'ai mentionnés, mais va un peu plus loin que ce que je mentionne. Fait que si vous voulez creuser, vous avez vraiment quelque chose de plus approfondi, allez l'écouter, super intéressant. Ce bout-là, parce qu'il parle vraiment des guardrails comme on devrait le faire et de façon très sérieuse dans les réseaux d'entreprise notamment et éventuellement à la maison aussi parce qu'on est à peu près dans la même place. Un très grand article écrit ou publié par InCyber sur tous les navigateurs avec du AI à l'intérieur, notamment Atlas et Comet, qui sont les deux plus connus. L'article, je le mets là parce qu'il regroupe un seul et même endroit l'ensemble des problèmes qu'on pourrait citer avec ce genre de choses-là. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir un point de référence. Si vous avez un document à lire sur l'ensemble des problèmes potentiels avec ça, c'est le document à lire. Sinon, ben, il y a une panoplie d'autres guides de référence un peu étalés partout sur Internet. Et c'est pas la première fois que j'en parle. Donc, bref. Cocoon, c'est un espèce de crowdsourcer ces GPU à travers une plateforme sécuritaire, ou en tout cas du Secure Compute GPU. Dans ce cas-ci, c'est fait par la plateforme Telegram, en tout cas le créateur de Telegram qui met ça en avant. On déploie un petit serveur Linux qui permet de redistribuer notre puissance GPU à qui le veut bien. Il n'y a pas tant de problèmes de sécurité. C'est du Secure Compute, en tout cas, dans tout temps d'apparence. L'architecture donne l'impression que c'est bien fait. Je n'ai pas évalué plus loin que ça. Je ne le déploierai pas parce que je n'ai pas l'intention de ça, mais c'est intéressant de voir cette façon de distribuer cette puissance de GPU qui promet d'être moins coûteuse que celle dans les gros data centers ou les éléments qu'on peut voir comme ça. Bref, ceux qui ont des capacités excédentaires à la maison, ça peut être une façon de la rentabiliser. Mais comme le Bitcoin, maintenant, je ne suis pas convaincu que le rendement en vaut vraiment la peine par rapport au Bitcoin ou à toutes les crypto-monnaies quand c'était le très, très, très début où il n'y avait pas tant de puissance que ça pour obtenir beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr qu'on est dans cet univers-là. OnMarker, ça, je trouve ça intéressant, c'est Carbon qui a diffusé ça, cette nouvelle-là. L'Université de Waterloo a sorti un papier de recherche de façon effective qui permet de casser tout le watermark le marquage, les filigranes qui sont dans les images générées par le AI. La façon simple, c'est que la signature qui est mise, elle est mise de façon non invisible à l'œil, mais quand même en sous-jacent en arrière, en modifiant un certain nombre d'informations. La façon simple de le briser, c'est un peu étonnant que c'était juste de comme réécrire par-dessus la couche de protection avec des données qui n'ont aucun sens. Donc, dès lors, l'algo d'interprétation n'est plus capable de détecter que l'image est produite par du AI parce que c'est vraiment juste ça la stratégie, c'est de détecter les éléments qui sont essentiellement en filigrane, invisibles à l'œil. Que l'image a été générée par un moteur un mentor AI. Donc, c'est un peu particulier que ce soit que ça. J'aurais pensé que ça aurait été un peu plus élevé ou ça aurait été un peu comme les images qui sont générées par les appareils photo numériques, qui est littéralement un certificat qui vient signer la dite photo. Donc, on est dans un drôle univers, je trouve ça. En tout cas, bref, il y a encore du chemin à faire. Puis, je pense que c'est pas dans le bon, dans la bonne direction dans laquelle ça a été fait. Autre nouvelle de Corbin, à ce cas-ci, c'est parle du système de téléphonique des prisons américaines. C'est un univers très particulier. D'ailleurs, les prisons américaines sont moins familiers. C'est des entreprises privées, tout est comme chargé. C'est comme une business. C'est un peu parce que cet univers-là. Et dans ce cas-ci, la compagnie qui s'occupe de ça, Securus, a décidé de commencer à utiliser ou en tout cas d'écouter avec du AI les conversions des prisonniers. Et ce qui est encore plus odieux là-dedans, c'est que les prisonniers doivent payer le service de téléphonie et doivent payer le AI qui analyse leurs conversations aussi en même temps. Donc, c'était un peu particulier tout ça. Puis en plus, utiliser les 7 dernières années d'enregistrement. Et dans le modèle américain, bien, les prisonniers sont des citoyens de seconde zone. Donc, sont traités avec moins de droits, moins de privilèges et sont vraiment traités littéralement comme des esclaves à ce cas-ci, avec des citoyens qui n'ont pratiquement aucun droit. Donc, c'est un univers juridique un peu particulier pour ceux qui ne sont pas habitués. Ce que je dis est peut-être pas tout à fait exact non plus, là, reprenez-moi pas parce que je ne connais pas tout à fait le système, le milieu carcéral américain, mais pour ce que j'en connais, je trouve que c'est un peu dégradant pour la nature humaine et pour la dignité humaine. Bon, bref, c'est le modèle américain. AWS se joint à Microsoft Google pour avoir des agents AI qui détectent des bugs dans ses logiciels, et ainsi de suite. Donc, c'est une bonne chose. À savoir, est-ce que ça va vraiment réussir à améliorer les choses? Le temps va nous le montrer parce que, à part des annoncés marketing qui sont tout à fait fantastiques et comme quoi on devrait de révolutionner le monde, jusqu'à présent, le AI n'a pas révolutionné tant que chose, ou en tout cas, les promesses qui ont été faites ne sont pas encore atteintes et je ne crois pas que ceci va arriver. Dans la nouvelle du bloc AI, AWS a annoncé le AI Factories, qui est essentiellement un module AI qu'on peut installer dans notre data center, donc sous le couvert du souveraineté numérique. Par ailleurs, qu'est-ce que j'ai lu dans les textes qui n'en parlent, il y a certains mots qui m'ont accroché, notamment le fait que ce cluster-là, que Amazon, AWS vient nous installer dans notre centre de données, est quand même géré par Amazon AWS. Donc, c'est pas tout à fait, c'est pas encore là. Je sais qu'il y a d'autres types de racks aussi qu'AWS gère quand on les installe dans nos infrastructures. Donc, ceci me rend inconfortable, mais j'en connais pas plus sur le détail, les fins détails. Et quand on embarque dans la notion de souveraineté numérique, tout est dans les détails. Pas juste des petits énoncés à marketing qui sont suffisants pour tirer des conclusions de ce qu'il y en est. Bref, section suivante, Red. Sous-section, le Living the Long Game, il y a deux articles très intéressants. Une première, que les Chinois se sont infiltrés dans des infrastructures critiques aux États-Unis pendant très longtemps. Ils sont restés présents très là. Donc, c'est un élément qu'on peut voir davantage, surtout sur les acteurs étatiques, la patience d'entrer et d'être silencieux pendant très longtemps. C'est pas la première fois que les Chinois le font, mais ils le font encore et ils continuent à le faire. Donc, de toujours demeurer prudent parce que ces acteurs-là vont agir comme ça et d'autres acteurs étatiques, autres que la Chine, sont aussi très intéressés à cette manœuvre-là, cette façon-là. Et ça peut être des pays beaucoup plus proches que ce qu'on pense ou qui ne sont pas nécessairement des pays qui sont hostiles à l'Occident. Donc, très prudent sur ce degré d'espionnage-là. La seconde, c'est une extension d'un navigateur Chrome et Edge qui, après plusieurs années, s'est transformé en un malware. Essentiellement, c'est que qu'ils ont obtenu la confiance des utilisateurs et pour d'une mise à jour bascule avec du code malicieux. Dans ce cas-ci, ça fait 4,3 millions de personnes ou navigateurs qui ont été touchés par cette modification-là. C'est quand même un nombre assez significatif et c'est de plus en plus difficile de rattraper. Ça nous ramène aussi le fait que les navigateurs sont rendus le nouveau OS, donc la sécurité n'est pas tout à fait encore à parité avec ce qu'on était habitué avec le OS, donc il va falloir qu'on augmente ça de façon significative puisqu'il y a d'autres vecteurs d'attaque qui vont arriver de ce côté-là, assurément dans les prochaines semaines, prochains mois, mes prochaines années. Les méchants hackers utilisent Living of the Land beaucoup pour contourner le DA. J'ai énormément parlé avec Charles Hamilton du sujet. J'en ai abordé un premier podcast, Red versus EDR, et j'en ai un second qui va sortir éventuellement, qui justement va un peu plus loin de ce côté-là, qui essentiellement, puis je vais prendre tanné d'avoir de présenter cette nouvelle-là parce que c'est un peu redondant, mais le fait que les EDR ont des spectre de détection, et quand on sort des spectres de détection, ben, ils tombent à côté. Ça, c'est un exemple de sortir du spectre de détection et quand on est capable de contourner le DA. Donc, c'est pas un outil magique. Faut maîtriser. Soyez attentifs. L'épisode avec Charles Hamilton revient sur ça, puis on aborde ça de façon beaucoup plus prononcée. Donc, de façon beaucoup plus intéressante. Vélociraptor, deuxième partie. Cet article-là parle essentiellement que les attaquants l'utilisent comme un module pour communiquer avec le command control. Donc, le fait de l'installer, normalement, qui est un agent de forensique, dans ce cas-ci, il va parler avec une base de contrôle qui est ailleurs. Donc, c'est une façon de contrôler les postes dans l'environnement. C'est imaginatif. Là. C'est la deuxième fois qu'il est la deuxième partie. Et cette façon-là, c'est que ça passe à côté à travers tous les outils standards pour détecter ce genre d'outils-là, puisque c'est un considéré comme un living of the land parce que c'est un outil de sécurité qui est utilisé de mauvaise façon. Dans ce cas-ci, les filtres justement ne l'intercepteront pas puisqu'il est vraiment dans la boîte à outils standard d'équipe bleue. La nouvelle suivante, c'est intéressant, maintenant ça parce que c'est le temps des fêtes. On va le voir de plus en plus parce qu'il va y avoir beaucoup de social engineering qui est fait par courriel. Maintenant, il y a des invitations Calendly qui ressemble à une invitation légitime et essentiellement, ça vient voler les credentials. C'est essentiellement, il fait passer le fait qu'on reçoit une requête pour convoquer une rencontre ou peu importe le prétexte qui est utilisé. Et ensuite, ce qu'il nous a demandé, c'est notre nom et mot de passe Google Workspace dans ce cas-ci pour aller plus loin. Donc, c'est pas juste M3C qui est attaqué. Google Workspace l'est également. Une nouvelle vague d'attaques sur les VPN. Dans ce cas-ci, c'est Palo Alto qui est touché. Que ça change, que ça soit pas le tout ou un autre, ça revient toujours au même. Les VPN sont des points d'accès à l'extérieur de nos infrastructures qui sont potentiellement vulnérables dans certaines occurrences. Dans ce cas-ci, c'est pas une vulnérabilité Palo Alto, contrairement à ce qu'on a vu chez, je pense, SonicWall et WatchGuard, qui ont eu des vulnérabilités. Dans ce cas-ci, c'est pas ça, mais ils sont attaqués. Donc, s'assurer d'avoir toujours du MFA sur vos points exposés et tout ce que ça peut concerner, bloquer le plus que vous pouvez. N'exposez pas ces choses-là, même si vous devez limiter l'exposition le plus que vous voulez. Dernière nouvelle de cette section-là, le landscape de la menace évolue et est de plus en plus dangereux pour l'industrie manufacturière. J'ai eu déjà enregistré plusieurs podcasts pour voler IoT et le grand constat, c'est effectivement ces entreprises-là ne sont pas prêtes. C'est donc une surface très grande, l'évolution très rapide vers des procédures qui sont de plus en plus numérisées avec des sécurités qui sont parfois insuffisantes. Donc, soyez très prudents. Ça va être probablement un des éléments qui va sortir énormément en 2026 ou continuer parce qu'il y en a déjà quand même pas mal malgré tout cette année. Section suivante, Blue. Réduction des délais des certificats chez Let's Encrypt à 45 jours, le délai de rotation et 7 jours, 7 heures, excusez. La durée de vie d'une vérification. Donc, ça s'aligne avec ce qu'il fait ailleurs. Ça va devoir demander que vos scripts se mettent à jour. Très bon papier qui explique comment faire. Fait qu'allez voir. Microsoft finit par corriger le problème de, disons, dit sécurité avec les raccourcis en permettant de voir l'ensemble du raccourci dans la fenêtre quand on regarde le contenu et ne pas juste voir ce qui est une fenêtre fixe et tout ce qui dépasse, ne pas le voir. Donc, ce qui était utilisé par les attaquants, c'est de mettre des espaces pour qu'on ne voit pas ce qui était dépassé la fenêtre. Donc, là, on le voit au complet. C'est du GUI essentiellement, mais c'est un vecteur d'attaque très, très important. Qui est important de redonner les outils dans les mains des personnes pour le détecter le plus facilement possible. Article sur comment améliorer la sécurité de Windows 11, allez le lire, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est essentiellement vérification, chaîne de trust, mettre les différentes mesures en place qui sont disponibles dans Windows pour augmenter la sécurité, autant au niveau de la maison que dans l'entreprise, c'est très très important. GrafenOS clame qu'il déploie tout l'ensemble des patchs de sécurité qui sont disponibles par une espèce de forum d'échange des vulnérabilités chez Android. dit que les autres ne le font pas. Donc, ça serait le version d'Android la plus sécuritaire au sens avec le moins de vulnérabilité présente, puisque l'application est dans la minute, avec ceux qui l'utilisent. C'est en marge de l'embroglio que Grafen OS a avec la France, dans laquelle je n'ai pas eu d'informations complémentaires. Donc, pour moi, c'est un cas malheureux que je ne comprends pas où l'espace politique qui est en arrière de ça qui nous amène dans cette univers-là. Mais je vais peut-être l'aborder dans les prochaines sections, mais pas de façon en tout cas oblique. Section suivante, Legalese. Les législateurs veulent bannir les VPN, notamment aux États-Unis, pas exclusivement. On l'a vu ailleurs dans certaines autres occurrences que c'est banni. C'est un drôle de plan, c'est une drôle de compréhension des technologies. Puis je reviens souvent là-dessus, puis ça, je le mentionne celui-là aussi, puisque le législateur n'est pas éclairé sur ces éléments technologiques-là. Donc clairement, comme praticien dans ce domaine, comme personne qui est connaissant, je pense qu'on a une responsabilité d'aider le législateur à comprendre qu'est-ce qui normalement est absurde, mais en même temps de se rendre compte que comment l'Internet est constitué ne permet pas ce genre de choses-là. Fait qu'on est encore, puis je reviens encore sur le sujet, sur le fait qu'on a des intentions qui sont légitimes essentiellement dans ce cas-ci, mais que le paysage Internet ne permet pas ce genre de choses-là. Donc, il y a comme une déconnexion entre les deux univers dans lesquels on n'arrive pas à l'objectif parce que la technologie ne le permet pas. Parce que bref, il va falloir que ça soit révisé. Le Portugal met à jour sa loi cybercrime, justement pour laisser l'espace pour les chercheurs en cyber, donc les protéger contre des accusations non fondées en cybersécurité, justement pour leur donner l'espace de recherche. Très intéressant. Je trouve ça intéressant que les pays mettent une exception comme ça. Il y a eu beaucoup de débats dans les dernières années, dans les 20 dernières années. Il y a des lois qui rendaient criminelle la possession d'outils offensifs cyber ou de la recherche, des choses comme ça, notamment en Allemagne, par exemple, qui était un des cas les plus publicisés il y a très longtemps. Mais de voir cet espace-là se créer, je trouve ça pertinent. Intéressant de voir qu'un pays s'intéresse à ouvrir ça, puis ça va probablement attirer les investissements en recherche aussi. Il y a probablement un intérêt de ce côté-là. Le législateur américain va transformer ou en tout cas va utiliser une loi pour déclarer ou en tout cas avoir des moyens pour s'attaquer aux acteurs étatiques, aux acteurs malicieux qui veulent s'attaquer à leurs infrastructures. C'est une drôle d'approche parce que le gouvernement américain a retiré le financement à beaucoup des organes qui étaient très influents en espace cyber aux États-Unis. Il n'y a pas de culture de cybersécurité sur le nouveau, la nouvelle administration. Et finalement, à l'image de ce qu'ils sont, ils veulent juste punir et non prévenir, mais ils veulent juste déclarer et mettre des mesures, des sanctions sur les pays ou les groupes d'acteurs malicieux dans ce cas-ci. Donc, c'est un changement de paradigme. Il faut effectivement des éléments coercitifs pour punir, parce qu'on ne peut pas laisser ça sans punition. Il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dessus parce que jusqu'à présent, on n'a rien de vraiment concret. Par ailleurs, ça n'empêche pas la bonne hygiène de vie, c'est-à-dire d'avoir des mesures de sécurité qui sont nécessaires, en tout cas avec un organe comme notamment le CISA, qui est bien financé, qui permet de protéger adéquatement les infrastructures américaines. C'est un peu étrange comme principe, parce que dans le fond, c'est comme de dire on va punir parce que tu es malade, mais on ne dit pas comment bien manger et tout ça. Fait que c'est un paradigme que je trouve très particulier, mais qui, je ne pense pas, va donner les résultats qui sont souhaités, ou en tout cas, bref, sont voulus, à moins qu'il y ait des volontés autres que de juste vouloir limiter la cybercriminalité. Autre section, souveraineté. Deux petites nouvelles, puis justement, deuxième, très intéressante. Porsche a eu des problèmes en Russie, puisque les véhicules, si on véhicule connecté, n'était plus capable de communiquer avec notamment avec les satellites. Donc, ça l'a créé, le fait que ça l'a bloqué, on sait que ça fonctionnait. Puis, c'est un rappel au niveau de souveraineté numérique à quel point le fait que nos différents éléments dans notre vie sont branchés, sont connectés, sont sur Internet avec des compagnies qui sont probablement dans des pays autres que le nôtre, nous amène dans des situations très précaires. Dans ce cas-ci, c'est des conditions de Porsche, c'est pas d'une très grande gravité. Mais si ça devient notre chauffage en hiver au Québec, ça peut être un problème. Si c'est nos réfrigérateurs, si peu importe les équipements qu'on a dans nos maisons qui sont essentiels à notre vie et à notre survie également, donc protéger la qualité de nourriture, ainsi de suite, ben, ça pourrait devenir un problème, ces éléments-là. On l'a vu avec John Deere qui a bloqué ces équipements qui étaient utilisés de façon non autorisée par les Russes, par exemple, au début de la guerre en Ukraine. Donc, ça voudrait dire que si les Américains se fâchent, on pourrait avoir un blocage de tous les équipements pour agricoles. Donc, c'est en tout cas, bref, c'est une très grande réflexion de ce côté-là. L'autre nouvelle, c'est une suite par rapport à ce que j'avais mentionné dans l'épisode sur le fait que la Cour supérieure de l'Ontario avait exigé à OVH la production de documents qui étaient à l'extérieur du territoire sur, bon, des énoncés du fait qu'il y avait une présence et tout ça. Je suis tombé sur un super podcast par un juriste qui connaît ça, qui en a fait d'autres, qui analyse la situation et à quel point va mettre en lumière à quel point la Cour supérieure de l'Ontario a erré, si on veut. Je reprends un peu l'approche qu'elle a faite, à quel point il y a des erreurs d'interprétation de la loi ou des précédents qui l'amènent à la mauvaise place, qui a des chemins, notamment les traités. Puis la France l'a dit d'ailleurs qu'il était prêt à communiquer l'information par les traités. Fait qu'un peu, comme je me souviens, je comprenais un peu mal pourquoi l'entêtement de la GRC et pourquoi la Cour a donné raison par rapport à ça. Puis je ne sais pas s'il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais bref, je trouve ça intéressant que, en tout cas, c'est ma première analyse que je vois au Canada qui explique correctement. Puis je crois qu'effectivement, il y a peut-être lieu de revisiter. Je pense que, dans l'absolu, si je prends ce que cette personne-là m'a mentionné, et son analyse de la situation, je pense que OVH va se retrouver à être dans une posture beaucoup moins confortable une fois que tout ça va se régler. Mais pour le moment, c'est un moment, un passage obligé qui est un peu terrible pour OVH dans ce cas-ci, qui prend à défaut dans une situation où OVH est responsable d'absolument rien. C'est juste que les données sont sur ses serveurs à l'étranger. Donc, ça revient toujours au fait qu'il va falloir avoir une réelle réflexion. Que clairement, les traités sont insuffisants. Puis c'est un peu ce que je mentionnais dans le dernier épisode. Le CLADAQ est une tentative ratée par les Américains d'essayer de normaliser le transfert des données entre les pays selon des règles normées et qualifiées. Donc, bref, de le voir comme ça, je pense qu'on est mûr pour avoir ce genre de discussion-là pour amener cette facilité-là de transférer l'information d'un fournisseur international dans des pays où il y a lieu. Il y a toujours l'enjeu de pays plus totalitaires qui vont abuser de ces règles-là. Puis c'est un peu ça l'inquiétude, somme toute. Mais de voir comment on peut avoir un régime qui est fait. Moi, je le vois beaucoup sur le fait que c'est où le crime a lieu, le corps de police sur place peut exiger des informations relatives au crime. Ce serait une façon, à mon sens. Ou tout simplement que les fournisseurs, ben, disons, si tu es basé au Canada, ben, tu ne peux pas stocker tes données à l'extérieur du Canada. Donc, dans le cas qui nous occupe, le fait que OVH aurait juste ramené des données demandées par la GRC aurait été déjà au Canada. Donc, tout le problème dans le débat dans lequel on est n'aurait jamais existé parce que les données étaient au Canada. Donc, je pense qu'il y a des réflexions de ce côté-là, autant probablement pour les fournisseurs pour se protéger. Puis peut-être que les fournisseurs vont prendre action pour se protéger plus vite et s'éviter de se trouver pris en étau dans un contexte dans lequel ils n'ont pas demandé et qui est contre-productif, j'ai l'impression, pour tout le monde. Bref, allez écouter le podcast, c'est dans les show notes, super intéressant. Le dude, il sait vraiment de quoi il parle, il donne plein de précédents, ça va vraiment éclairer la situation et elle est beaucoup moins... En tout cas, problématique pour OVH en l'occurrence, puisque clairement, il a l'air d'avoir un problème d'interprétation et probablement que la Cour d'appel va renverser. Mais encore là, si la justice va suivre son cours, tout ça, c'est des spéculations. Fait que, bref, pour le moment, ça m'a rassuré un peu quand j'ai écouté ce podcast-là. Bref. Privacy, l'Inde a posé des gestes intéressants, intrigants. Cette semaine, le premier, ça a été d'obliger l'installation d'une application sur tous les téléphones du pays pour finalement devenir pas une obligation, mais un élément souhaité, donc volontaire par les utilisateurs. Et le second, c'est de forcer les applications qui sont rattachées à des numéros de téléphone, notamment comme Telegram, WhatsApp et Signal, de revérifier que le numéro de téléphone est bel et bien encore actif, donc la SIM est encore dans l'appareil dans lequel l'application est située. Ces deux éléments-là sont utilisés. Les justifications de l'Inde sont fondé. Je l'ai mis dans la section privacy parce que le plus gros enjeu là-dessus, c'est le suivi des gens, l'invasion d'un pays sur l'autonomie de ses citoyens et par une surveillance excessive pour des normes occidentales, notamment, là, où, dans lesquelles on est habitué de vivre dans un pays qui est beaucoup plus libre, dans lequel on ne se fait pas surveiller. C'est de moins en moins vrai par ailleurs, mais bon, bref, on a cet élément-là. Selon nos valeurs et notre éducation, puis moi particulièrement aussi, mes valeurs et choses, le degré, je suis un libertarien-ish, sur les côtés, pas très fort, mais quand même suffisamment pour que ça m'agace beaucoup. Par ailleurs, il faut remettre en perspective qu'en Inde, et comme en Chine aussi d'ailleurs, c'est des populations qui sont immenses, avec des problèmes de criminalité qui sont très difficiles à contrôler, notamment numérique, notamment avec les cellulaires, notamment dans ces contextes-là. Donc, c'est des mesures qui, à leur face même, sont légitimes pour lutter contre les problèmes endémiques de criminalité qu'ils ont dans leur pays. Donc, c'est comprenable. Et de la gestion de très grandes populations comme l'Inde et la Chine, c'est en dehors de ce que les pays occidentaux, on est habitués. Nous, on est des pays beaucoup plus petits. Le plus grand pays en ce sens-là, ça va être probablement les États-Unis avec son 300-ish millions tout seul, mais en même temps, les États-Unis, c'est comme un rassemblement d'autres choses. On pourrait prendre le bloc européen, mais on le voit que le bloc européen, c'est 27 États membres qui ont de la difficulté à s'entendre entre eux autres. Donc déjà là, on est dans un univers qui est un peu autre, où lequel puis le pouvoir central est beaucoup moins fort, contrairement à la Chine et à l'Inde, où le pouvoir central est très fort. Donc on est dans un contexte où je pense qu'on n'a pas nécessairement de l'expérience, en tout cas en tant qu'occidentaux, de la complexité de gérer d'aussi grands groupes, d'aussi de villes aussi densifiées. Donc, on est dans un contexte comme ça. Fait que je me regarde quand même une porte ouverte sur... Il y a peut-être des mesures qui nous semblent démesurées par rapport à nos habitudes un peu plus libertariennes, ouverture, liberté qu'on a en Occident, qui, dans ces pays-là, est peut-être une obligation de par le problème de densité, d'augmentation et le problème de endémique de la criminalité, notamment numérique, donc de voir comme ça. Fait que je leur lance pas nécessairement la pierre, mais en même temps, tout ça est complexe. C'est un système complexe, donc voir comme ça. Puis s'il y a des meilleures façons pour régler les problèmes que l'Inde affronte, ou la Chine aussi d'ailleurs, à certains égards, toujours de proposer des systèmes qui fonctionnent pour se rendre jusque-là, au lieu de juste dire que c'est mal ce qu'ils font. Et juste de pas dire, pas juste de refuser, mais d'offrir quelque chose qui permettrait d'arriver à l'objectif, donc de résoudre la criminalité, le vol de cellulaire, le vol de lignes non autorisées, la fraude et tout ce que ça comporte, avec des moyens qui sont peut-être moins invasifs à la vie privée dans un contexte de surpopulation comme les CDP. Bref, réflexion, fait que c'est un peu comme ça. Autre nouvelle où le Canada, c'est pas glorieux. On est paru dans les nouvelles, on apparaît trop souvent dans les nouvelles ces temps-ci pour des choses qui ne sont pas glorieuses. La police de Edmonton utilise des caméras sur les policiers avec reconnaissance faciale. C'est un des premiers tests qui est fait dans le monde réel, en tout cas du moins en Occident, ce qui semble redire l'article. Et c'est pas très glorieux parce que là, on est vraiment dans l'état d'invasion de vie privée, des éléments comme ça. On a vu surtout aux États-Unis, de mauvaises reconnaissances, donc l'incarcération de gens des innocents essentiellement, qui étaient injustes. Là, le principe des autres qui mentionnent, c'est il y a toujours un humain qui vérifie, blablabla. Bon, c'est bien, mais on l'a vu avec l'intelligence artificielle, l'humain a tendance à tourner à off rapidement sa capacité critique et agit de façon aveugle par rapport à ce que le AI retourne. Donc, c'est un peu un chemin, une pente glissante essentiellement. Donc, c'est très dangereux en ce sens-là où l'esprit critique a tendance à disparaître face au AI. Avec l'informatique en général, mais l'AI encore plus, c'est un peu fascinant ce qu'on voit avec toute la folie, avec l'intelligence artificielle, toute la bulle que ça crée. Bref, donc c'est plus le fait que la switch tourne à off et l'élément pendant à travers ça, c'est dans les faits, système est autonome, reconnaissance faciale, et ça arrêtait là où il ne stockait pas, où il n'y avait pas de suite. Donc, il y avait comme une forme d'autonomie, comme un peu comme l'humain est complètement déconnecté. Donc, dans un espèce d'état déconnecté, reconnaît, puis le processus enclenche normalement avec un policier qui vérifie. J'aurais pas de difficulté. Le problème, c'est que généralement, les conditions d'utilisation changent tout le temps. Pour les attendre, on va commencer à aller conserver, entraîner, et aller beaucoup plus loin dans la démarche. Donc, cet élément-là est un peu problématique, pas à court terme, mais à plus long terme, ça pourrait devenir très, très dangereux, ce genre de choses-là. Puis, habituer les gens aussi à cette façon-là d'aborder la vie, la façon dont on est surveillé, la façon que le AI est tout le temps partout. Puis bref, il y a peut-être des questions de fond à se poser sur cet élément-là. Le fait que l'Internet est de plus en plus age-gated, là, et que la vérification de l'âge, il y a beaucoup de lois aux États-Unis qui sont plus crues comme type de loi, qui exigent des démonstrations qui sont un peu achalantes. Ça devient troublant de voir ce qui est fait du côté américain, du moins, de façon à ce qu'il y ait une invasion énorme à la vie privée. On le voit aussi en Angleterre. Donc, cet appétit-là de voir, puis je revenais un peu, comme je mentionnais précédemment, le fait que, effectivement, l'objectif est louable. On veut protéger les enfants adéquatement de systèmes qu'on considère toxiques ou dangereux, peu importe. Ça va. Le problème, c'est le moyen qu'on s'y prend et comment les technologies qu'on utilise sont inefficaces pour y arriver. Donc, il va falloir commencer à réfléchir. L'Australie, puis l'article ne le mentionne pas, mais je l'ai attrapé ailleurs dans d'autres podcasts, la façon que l'Australie contrôle l'accès aux médias sociaux, puis là, c'est imminent, je pense, il faut avoir 16 ans et plus pour accéder aux médias sociaux. Elle a dit, compagnie, vous avez suffisamment d'informations pour être capable de déduire l'âge des personnes. Vos algorithmes sont ultra puissants. Vous êtes déjà capable de publier envoyer des publicités qui sont vraiment axées. Donc, vous êtes capable de déduire l'âge de la personne. Dès lors, vous êtes capable de dire, OK, vous n'avez pas 16 ans, vous bloquez. Et de l'autre côté, si une personne qui a plus que 16 ans est bloquée, là, c'est un processus normé. On est capable de faire débloquer, de dire qu'on a plus que 16 ans. Je trouve ça intéressant comme aspect parce qu'effectivement, puis on l'avait abordé avec Catherine lors du GoSec, on avait parlé un peu du fait que c'est YouTube qui est capable de déduire sur nos habitudes et ainsi de savoir quel âge qu'on a ou qui on est, essentiellement. Et là, la loi en Australie s'appuie exactement sur ce genre de choses-là, mais pas juste sur YouTube, mais sur l'ensemble des médias sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, peu importe. Mais tous ceux-ci sont capables de que le podcast, c'est intéressant de dire, juste la façon que les jeunes s'écrivent ensemble est un signe suffisamment grand pour être capable de déduire l'âge sur les émojis qui sont utilisés, le vocabulaire, et ainsi de suite. Bref, c'est un aspect intéressant, mais en même temps, c'est très Big Brother. Fait que, tu sais, c'est comme un peu entre les deux. Réflexion encore à voir, je ne sais pas ce que ça va donner. La loi en Australie rentre en action, donc on va voir ce que ça fait, comment ça fonctionne. C'est un laboratoire, dans le fond, c'est un pays qui s'essaye. Bref, OpenAI a perdu sa bataille en cours pour bloquer l'accès aux conversations, dans le cas qu'il l'oppose à des médias, essentiellement pour voir qu'effectivement, il y a eu de mauvaises utilisations et tout ça. C'est intéressant de le voir comme ça. Je suis d'accord que, ils s'opposent parce qu'ils veulent garantir et assurer que les gens soient en confiance à l'utilisation de ce produit-là. Par ailleurs, le fait que la Cour l'exige parce que ça fait partie d'un processus judiciaire, c'est une chose. Il faut savoir aussi que si n'importe quel autre mandat de la Cour, ils vont devoir finalement le faire comme n'importe quel autre fournisseur, comme Google le fait allègrement également. Fait que pour ceux qui, jusqu'à présent, croyaient que leur conversation est confidentielle avec OpenAI ou ChatGPT ou peu importe le modèle que vous utilisez, soyez convaincus, puis ça c'est un bon rappel, que tout est enregistré et tout est utilisé. Si ce n'est pas pour l'entraînement, ça va être donné aux forces de l'ordre s'il y en a besoin. Fait que si vous demandez une recette d'une bombe dans ChatGPT et que la police vous arrête et fait sortir les logs, ben ça va sortir comme vos recherches dans Google, comme tout ce que vous avez. Donc, tout ça laisse des traces. Donc, soyez avertis. Et en même temps, ça, c'est une chose quand on fait des choses négatives, mais quand même, on fait des choses positives. Il y a des éléments qui peuvent sortir contre nous. S'il y a des enquêtes, si on regarde comment les États-Unis sortent des profils, c'est cette semaine ou la semaine passée. Tous ceux qui avaient des capacités de fact-checker, ils sont maintenant bloqués à la frontière ou à l'immigration. Donc, toute cette conversation-là fait que c'est pas mal sûr que Trump va utiliser les pouvoirs d'enquête de sa capacité. Puis normalement, FISA section 702, lui permet de forcer, notamment le ChatGPT, de fournir des informations sur des personnes qui ne sont pas des habitants américains, pas des citoyens américains. Donc, tous les étrangers, on est capable d'aller voir le contenu des conversations, donc de faire des profils et de déduire qu'on est non désiré par l'administration en place, par exemple. Bref, ça étant dit, dernière section, insolite, deux petites nouvelles qui, à mon sens, sont vraiment insolites. La première, c'est Colère qui a une caméra pour analyser le contenu de notre toilette. Elle dit sur son site que les choses sont encryptées bout en bout. Le réel, ce n'est pas encrypté bout en bout. Le contenu de notre bol de toilette est stocké de façon pas vraiment chiffrée dans leur base de données. Ils peuvent l'utiliser, s'il y a une fuite de données, ben, le contenu de notre toilette va pouvoir être utilisé par des malveillants ou pas faire chanter aussi. Essentiellement, dire j'ai le contenu de votre toilette, je le dis à votre médecin que vous avez tel genre de choses ou tel genre de choses. Soyez prudents quand ça arrive. Dans ce cas-ci, c'est un mauvais marketing. J'ai l'impression que ça a été utilisé pour rassurer, mais ça a été vite debunk parce que les professionnels là, se sont rendus compte que c'est simplement du HTTPS et du stockage chiffré address qui ne bouge pas, mais ce n'est pas du stockage qui empêche les employés de la compagnie de voir le contenu des dites images de vos moments solitaires en salle de bain. Et la dernière nouvelle, des jumeaux ont effacé 96 bases de données du gouvernement américain. Ces deux doudes-là avaient déjà été appréhendés, reconnus criminellement coupables d'un crime informatique, et en 2015, il y a 10 ans. Et essentiellement, on reprépétait ça. C'était deux personnes qui travaillaient pour un sous-contractant du gouvernement américain et qui ont été congédiés au congédiement, se sont vengés, ont effacé 96 bases de données. Donc, les enquêtes d'antécédents criminels sont importantes. D'avoir des antécédents dans des crimes qui sont sans importance par rapport au travail, c'est une chose, puis ça ne va pas empêcher de travailler. Par ailleurs, si les antécédents, c'est d'avoir fait des crimes informatiques, c'est sûr, ensuite, on ne donnerait pas des clés à ces gens-là d'administrer des systèmes informatiques critiques comme ceux du gouvernement américain, notamment. Ça complète pour aujourd'hui. J'essaie de tenir j'ai réussi à tenir en bas de 50 minutes. Puis de couper beaucoup d'invents, ça me prend un peu plus de temps parce que je vais couper beaucoup puis retrancher. Bref, le cycle va s'améliorer. J'ose espérer encore mieux dans les prochaines semaines. Merci si ça a été écouté jusqu'au bout. Encore une fois, j'écoute ce que vous me dites. Fait que si vous avez des observations, des commentaires, des points que je pourrais améliorer pour que ça soit plus intéressant ou plus utile pour vous, ne gênez-vous pas. Beaucoup de plateformes de communication. Je sais qui vous convient le mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.